tout de suite, je voudrais juste faire une conclusion. Il n'y a pas de choses nouvelles, il n'y a pas d'idées nouvelles dedans peut-être, mais qui est un peu de Père Lamy précurseur de la nouvelle évangélisation, du moins qui nous invite à rentrer vraiment dans la nouvelle évangélisation. Je pense qu'il y a, et on va retourner au premier nouvel évangélisateur, parce que je pense que le premier nouvel évangélisateur, c'est vraiment Jésus. Avant de développer ça, je crois que ce qui est en jeu, c'est notre situation par rapport au monde et quel esprit nous avons, comment aller de l'avant. Hein? Est-ce qu'il faut que, quelle est notre position par rapport au monde? Est-ce que, comme disait le texte que j'ai lu au début dans les Lineamenta de Benoît XVI, est-ce que nous sommes sur une réaction défensive ou est-ce qu'il faut que nous puissions aller de l'avant? Hein? Donc c'est très intéressant de regarder Père Lamy à l'aise chez Maritain, parce que c'est quand même la doctrine de saint Thomas, très, très, la vérité, enfin la découverte de la foi avec les auteurs, donc c'est quelque chose de solide dans une philosophie réaliste, etc. Mais en même temps avec ce désir de cette ouverture et non pas une réaction par rapport à... Personnellement, quelque chose que j'ai souvent partagé, mais qui je suis vraiment très étonné, c'est que souvent on se trouve aujourd'hui, l'Église se trouve dans la mentalité commune des gens, l'Église se trouve dans une situation où elle passe, où on réagit, où on voit l'Église comme les gens voyaient les pharisiens au temps de Jésus. Hein? Si tu veux, dans la mentalité des gens, si tu veux être chrétien, fais ceci, fais pas cela, fais etc., qui donne des normes, etc., et qui ne donne pas... Et pour moi, c'est une source d'interrogation qui, je pense, est très importante à essayer d'avoir une intelligence pour retrouver justement, pour ne pas tomber dans le panneau d'où les gens nous mettent comme image, mais pour retrouver cette source de vie contemplative, et je pense qui est importante. Et je parlais de Jésus comme nouvel évangélisateur parce que je pense qu'il y a un événement dans l'évangile qui est vraiment très fondamental pour comprendre, qui est central pour comprendre la personne de Jésus, qui est fondamental pour comprendre aussi la nouvelle évangélisation, c'est le discours de Jésus, c'est pas un discours, mais c'est l'enseignement de Jésus sur le pur et l'impur. Hein? Et je pense que c'est vraiment ici, je ne l'ai pas souvent vu, mais c'est vraiment une clé de l'évangile, une clé pour voir comment Jésus est. Vous vous souvenez que, je prends le passage dans saint Marc, et dans saint Marc, ce passage, ça vient sur la dispute avec les pharisiens, sur les traditions, etc. C'est le discours chez saint Marc chez les traditions. Et après, Jésus finit par cet aspect. Hein, je reprends le texte, c'est toujours mieux. Hein, c'est au chapitre 7. Donc c'est vraiment la discussion sur les traditions, les ablutions que les uns font, etc. Et ensuite, Jésus en montre les limites, les hypocrisies avec l'histoire de Corban, etc. Voilà, oui, vous dites qu'il faut s'occuper de père et mère, mais vous déclarez avec une autre loi, vous annulez les choses. Donc c'est un peu des lois humaines. Hein. Et puis, lorsqu'il fut rentré à la maison, loin de la foule, les disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. La parole énigmatique, c'est que Jésus a dit à tout le monde après cette dispute, dans l'enseignement commun, il a dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme, voici ça ce qui rend l'homme impur. Hein? » Donc il prend une sorte de parabole un peu triviale, hein, en disant « Mais c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort de l'homme. » Bien. Derrière... Alors, et les apôtres ne comprennent pas vraiment, enfin, ils l'interrogent là-dessus. Il leur dit, vous aussi ne savez-vous donc, êtes-vous donc sans intelligence? Hein, donc c'est vraiment quelque chose de difficile à comprendre. Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur ne peut rendre l'homme impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur mais dans son ventre et puis s'en va dans la fosse? Et il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. Et en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent des intentions mauvaises, l'inconduite, vol, meurtre, adultère, etc., etc., cupidité, etc. Et si vous lisez ce texte, retournez voir aussi les fruits de l'esprit et les fruits de la chair dans Galates 5, hein, ce texte que m'est tellement cité Père André. Bien. Et ici, il y a vraiment, derrière, il y a cette expérience de Jésus. Derrière, il faut se souvenir de la femme hémorroïde. Hein, qui a des pertes de sang et qui veut toucher, qui se dit mais si je touche le bord de son vêtement, mais en même temps, alors Jésus sent une force qui sort de lui, hein, et une force guérissante. Et il dit, bon, ils sont comme dans le métro à 6 heures du soir, hein, et puis il dit qui m'a touché, et alors les autres disent non mais t'es fada, hein, ça va pas l'histoire, tout le monde te touche. Il dit qui m'a touché, et il se tourne, et la pauvre femme, elle est morte de trouille. Pourquoi elle est morte de trouille? Parce que c'est très grave ce qu'elle a fait. Parce qu'elle est en situation impure. Et si elle touche Jésus, elle le rend impur. Hein? Elle le rend impur. Et Jésus, parce que c'est comme ça dans le système des pharisiens. Le monde est mauvais, on se protège, etc. On se protège, etc. Et pour Jésus, c'est l'inverse. C'est la pureté qui sort de lui. Vous voyez, c'est le fruit de l'esprit parce qu'il est dans l'esprit. Hein? Et ça va être, donc on n'a plus besoin, il n'a pas besoin de se protéger. Toutes les règles des pharisiens, c'est pour se protéger de ce mauvais monde. Hein? Tandis que Jésus sait que le monde est mauvais, mais enfin je veux dire qu'il est blessé. Hein? Mais il va donner l'esprit. Il va donner le don d'esprit. Il va donner la guérison. Et là, il y a vraiment ce changement. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'évangélisation de Jésus, vous avez juste après ce passage, hein, l'épisode de la syrophénicienne. Hein. Alors là, c'est encore extraordinaire cet aspect de la syrophénicienne, parce que bon, ils vont à la plage, hein, du côté de Saint-Jean d'Acre, ils veulent que personne ne les connaisse, être tranquille, et puis ils manquent de peau, il y en a une qui les voit. Et Jésus va la guérir pour, suivant les textes, on ne sait pas très bien, c'est est-ce que ça l'énerve lui ou est-ce que ça énerve les apôtres. On pense plutôt que ça énerve les apôtres, donc il veut les protéger. Hein, mais il est dur avec elle parce qu'il dit les choses aussi en même temps. Vous, vous n'y connaissez rien, nous, on connaît les Juifs, on sait ce qu'on adore. Et elle, par son intelligence, c'est-à-dire par sa soif, c'est-à-dire par sa recherche, on a parlé de la recherche tout à l'heure, hein, Jésus va être admiratif de sa foi. Hein, avec sa réplique là, qui est absolument extraordinaire, c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Hein? Et Jésus va capter justement, enfin, il suscite, hein, d'une manière paradoxale, c'est une injonction paradoxale ici. Mais ce qui est intéressant, c'est il va, et du coup, va, ta fille est guérie. Et sortant de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus va en territoire païen, et Jésus fait la multiplication pour les... la multiplication des pains pour les païens. Donc il y a une ouverture, que j'allais dire, de nouvelle évangélisation, alors qu'avant il dit, c'est pour les fils d'Israël, les brebis perdues d'Israël que je suis venu. Après cette réflexion sur le pur et l'impur, hein, comme conséquence, et dans une doctrine, et dans l'exemple vécu avec la syrophénicienne, Jésus va encore avoir plus de liberté avant, pour pouvoir répondre à la soif des uns et des autres. Et je pense que c'est vraiment, enfin pour moi, je pense que c'est un passage très, très intéressant, une réflexion, parce que c'est vraiment dans cette, quelle est la position par rapport au monde, hein. Il ne suffit pas de faire de l'aspect béat en disant tout va bien, le monde est formidable, c'est pas ça, mais en même temps, comment faire confiance, comment rentrer et comment combler la soif, hein. Vous aviez tout à l'heure « Eat in the sky », effectivement, on peut le lire de manière. On peut dire c'est le péché d'Adam et c'est le péché de Babel, si vous voulez, hein, et puis dire voilà, hein, c'est mauvais. Ou on peut le voir aussi d'une autre manière. C'est cette soif mal orientée, mais c'est une pierre d'attente extraordinaire où il faut qu'on redonne le Seigneur. Hein, mais pas en disant aux gens t'es nul, t'es pas bon, etc. Hein, toutes les choses avec Jésus, avec les pauvres, enfin la prédication de Jésus avec les pauvres, avec les pécheurs, deux qui se trouvent. Et souvent on a du mal à piger ça, et je pense que c'est important pour nous d'y réfléchir.